Ma bifurcation, mémoire d'André Brink. Page choisie par Michel Pomarède, avec Jean Ocotrel. Quatrième épisode. Après 2 années passées à Paris, André Brink rentre en Afrique du Sud en 1961. Il occupe alors un poste de maître de conférence en littérature africaine et hollandaise à l'université de Rhodes à Grahamstown. Il devient surtout l'un des principaux représentants des Sestigers, la nouvelle génération d'écrivains afrikaners qui se révolte avant tout contre les thèmes et les structures éculées du roman de langue africaine. Cela les amène très vite à se heurter à la plupart des valeurs religieuses et morales de la tradition afrikaner. Et de là, à une contestation du régime politique. André Brink voit ses romans frappés par la censure.
Au plus noir de la nuit fut le premier de mes écrits ouvertement opposé à l'apartheid. Déjà au cours de la décennie précédente, dans Lobola Virdileue, plusieurs passages avaient été inspirés par la situation en Afrique du Sud, notamment les événements que Sharpeville m'avait fait découvrir, et par mes lectures à notre ambassade à Paris, sur le tristement célèbre sergent Nick Harlow et d'autres de son espèce. Mais la plupart des passages dangereux avaient été coupés par l'éditeur. Cette fois, les choses furent différentes. Le livre présentait l'acteur de couleur Joseph Malan comme un Christ des temps modernes. Et par-dessus tout, j'y décrivais sa relation avec une blanche et son passage à tabac par la Security Police. La réaction au livre fut immédiate et stupéfiante. Quelques romans en langue anglaise nous avaient déjà présenté des histoires d'amour franchissant la barrière des couleurs, dont la plus touchante était « Occasion for Loving », une occasion d'aimer, de Nadine Gordimer. Mais en afrikaans, ce genre d'expérience avait toujours été décrite comme un scandale. Dans mon roman, elle faisait partie simplement de l'expérience humaine. En fait, la principale critique négative qui émana d'un ami, un critique littéraire respecté, me reprochait que l'homme de couleur Joseph Malan se comportât comme un blanc. C'était plus ou moins ce que j'avais voulu. Sous-jacente à toutes les critiques bonnes ou mauvaises, rôdait l'interrogation « Que vont dire les censeurs ?» L'annonce que le roman avait été soumis au Publications Board déclencha un vent de folie. Pendant des semaines, nous fîmes la première page. La nouvelle fut relayée à l'étranger par Time, Newsweek, des journaux britanniques, français, allemands, scandinaves, même au Japon. En quelques jours, partout, les tirages furent épuisés. Le Publications Control Board nous fournit, ainsi que l'État le lui imposait, les justifications de son interdiction. Si l'affaire n'avait pas été aussi grave, il y avait de quoi en rire. Les trois chefs d'accusation étaient les suivants. Blasphème. Comme preuve d'impiété, la moindre utilisation déplacée du nom de Dieu était répertoriée, y compris chaque fois qu'un personnage lâchait une exclamation du genre « Mon Dieu qu'il fait chaud !» Pornographie. Chaque acte d'amour, chaque référence à l'acte charnel ou à la simple possibilité d'un acte sexuel se retrouva sur la liste des censeurs. La place de choix étant réservée à un épisode dans lequel Joseph fait l'amour avec la jeune Hollandaise Anna Maria. Agacée par son pédantisme, celle-ci s'écrie « Pour l'amour de Dieu, Joseph, tais-toi et baise-moi ». Atteinte à la sécurité de l'État. Le simple fait de présenter un homme de couleur et une femme blanche osant s'aimer sexuellement était une attaque frontale contre la politique du gouvernement de l'apartheid et mettait en danger les fondements même de l'idéologie qui le sous-tendait. En outre, la description de la Security Police était jugée fallacieuse, insultante et offensante. La censure n'opérait pas dans le vide. Comme j'allais le découvrir bientôt, le fait qu'un livre ait été interdit attirait inévitablement l'attention de la Security Police sur son auteur, notamment lorsque figurait sur la liste des griefs qui lui étaient reprochés le fait de menacer la sécurité de l'État. Depuis l'interdiction des Kenis, je n'étais plus libre d'aller et venir à ma guise en Afrique du Sud. Même mes voyages à l'étranger étaient surveillés. Je fus placé sur écoute, et mon courrier, au départ comme à l'arrivée, était ouvert, toujours d'une manière si évidente qu'il était clairement dans l'intention des autorités de bien me faire savoir que j'étais surveillé. Cela dit, au départ du moins, les gars de la Special Branch, la SB, se montrèrent discrets. Pendant ce temps, la censure commençait à changer de l'intérieur. Mais comme c'est souvent le cas des formes les plus néfastes de maladies, il fallut que les choses empirent avant qu'elles ne s'améliorent. L'année précédente, l'édition anglaise de Rumeurs de pluie avait été saisie à l'arrivée en Afrique du Sud et mise sous embargo pendant des mois. Mais lorsque début 1979, il fut annoncé que le livre avait remporté le prix CNA, le principal prix littéraire en Afrique du Sud, l'embargo fut levé à la hâte. C'est ce genre de comportement bâclé et lâche qui permit de sceller le sort du système de la censure avant qu'il ne soit officiellement démantelé. La rédaction de Rumeurs de pluie avait été interrompue inopinément lorsque, début 1977, un contingent de 7 hommes de la Security Police, se présentant à ma porte, avait foncé dans le couloir sans prendre le temps de présenter un mandat de perquisition. Ils déclarèrent être venus fouiller l'appartement. Pourquoi osais-je m'enquérir ? Le responsable, un officier du nom de Siebert, éthique, l'air affamé, se contenta de plisser les yeux, répondant que ce n'étaient pas mes oignons. Ils sauraient ce qu'ils étaient venus chercher quand ils le trouveraient. M'ordonnant sans cérémonie de m'asseoir, ils requirent la présence de ma femme, Alta, qui travaillait alors dans son atelier, pour l'empêcher de prévenir les voisins. Tous les 7 se mirent à saccager mon bureau, tiroir, classeur, étagère, tout y passa, même si je n'eus pas l'impression que leur préoccupation ait été littéraire. Quand je suggérai que s'ils voulaient bien me dire tout simplement ce qu'ils cherchaient, je pourrais les aider à le trouver, Herr Siebert me répondit d'un ton très sec de la fermer. Nous trouverons ce que nous cherchons, ne vous inquiétez pas, même si ça signifie détruire cette maison jusqu'à la dernière brique. À regarder la pile croissante de livres, de dossiers, de coupures de presse, de notes et de manuscrits réunis par les 7 samouraïs, je me forgeai peu à peu une idée assez claire de ce qui les intéressait. Quelque temps auparavant, Breitenbach était revenu brièvement en Afrique du Sud, plus ou moins dans la clandestinité, sous un déguisement et un nom d'emprunt, Christian Galaska. Il était en mission, et sa mission pouvait ou non avoir eu trait à des activités antigouvernementales. Mes visiteurs importuns avaient déboulé chez moi juste après le séjour de Breiten. Ils m'escortèrent à mon bureau de Rhodes, coincé entre 2 officiers sur le siège arrière de leur voiture, 2 autres devant. Ils me retinrent plusieurs heures. Les 3 autres étaient restés à la maison, sans doute pour surveiller d'éventuelles actions subversives de la part de mon épouse et de nos 2 enfants de 5 et 3 ans. En fin de compte, ils partirent avec une volumineuse caisse de livres et de documents, dont mes notes pour Rumeurs de pluie et mes 2 machines à écrire. Ils omirent d'emporter le premier jet du roman qui se trouvait dans notre chambre à l'étage où j'étais en train de le corriger. Ce fut un miracle. À cette époque, à cause d'une superstition stupide, je ne faisais jamais de double d'un manuscrit en cours d'écriture. J'étais persuadé que ça me porterait la poisse. À partir de ce jour-là, je m'assurais toujours de faire plusieurs copies carbone de tout ce que j'écrivais. J'en envoyais une par semaine à des amis en Europe. Après le départ du commando de la SB, je me sentis bizarrement exalté. Je ne parlais à personne de leur visite, mais je me rendis chez un collègue pour lui emprunter une machine à écrire. Avant la tombée de la nuit, j'avais écrit plus du double de mon quota quotidien. En fin de compte, Rumeurs de pluie fut terminée bien avant la date butoir que je m'étais fixée. J'avais assisté au procès de Breiten à Pretoria et profité de l'occasion pour jeter un œil à 2 autres procès à la Cour suprême pour encourager les accusés. La Security Police me permit même de passer quelques minutes seul avec Bretten. Il écopa de 9 ans. Après tout juste une année, on le sortit de prison pour le faire passer en jugement une nouvelle fois pour une supposée tentative d'évasion. Quelques mois plus tard, Bretten comparut à nouveau devant la Cour suprême. Contrairement à ce qui s'était passé au premier procès, placé sous la houlette d'un juge de droite qui faisait manifestement des courbettes au régime de l'apartheid, le nouveau juge tenta, dans les limites étroites définies par le système en vigueur, de permettre à la justice de prévaloir. La sentence ne fut pas alourdie et les représentants de l'État se firent tancer sévèrement. C'est en grande partie grâce à ce verdict que rien ne fut tenté par la suite, soit contre Bretten, soit contre ceux d'entre nous qui étaient impliqués dans le procès. Quelques semaines avant, je m'étais rendu à Johannesburg pour m'entretenir avec le nouveau et brillant avocat de Bretten, Johann Kriegler. Je lui avais demandé ce à quoi je pouvais m'attendre à la suite de la comparution de Bretten. Kriegler avait croisé les mains et, me regardant dans le blanc des yeux, avait répondu « Vous êtes dans un beau merdier ». Avant ce second procès, j'avais encore été confronté à la Security Police. Il y eut tant d'autres signes, infimes, moins spectaculaires, mais si destructeurs. N'arrivé à Port Elizabeth, comptant prendre l'avion du Cap, que pour s'entendre dire « Mais vous êtes déjà parti il y a une heure. Voyons, c'est impossible, puisque je suis ici maintenant. Voici mon coupon de réservation, délivré par l'agence de voyage, pour le prochain avion. Je suis désolé, monsieur, mais ce vol est complet. » L'accumulation de toutes ces brimades constitua bientôt un fardeau que je ne fus plus capable de supporter. À moins de trouver un moyen d'en faire un sujet de roman, la situation dans mon pays menaçait de me submerger, de me paralyser. Un événement clé me procura un sujet possible, la mort en détention d'un habitant du Cap-Oriental, Mohapi. Depuis environ le milieu des années 1960, les morts en prison étaient devenus un symptôme de la dégradation de la situation, et leur nombre avait cru depuis les nouvelles lois sur la détention sans procès, d'abord pendant 90 jours, puis 180. De plus en plus sévère et arbitraire, tout comme le serait 40 ans plus tard le duo infernal Bush-Blair, le gouvernement sud-africain fut obsédé par le terrorisme. En 1969, l'assassinat par la Security Police d'un imam du Cap, Abdullah Haron, fit la première page dans le monde entier, grâce en particulier à la ténacité d'une députée de l'opposition, Catherine Taylor. L'affaire n'eut pas de suite, mais un nombre croissant de Sud-Africains exprimèrent leur malaise face à ces récits de détenus qui mouraient après avoir glissé sur un pain de savon, être tombés dans un escalier ou d'une fenêtre du 10e étage quand ils ne se pendaient pas aux barreaux de leur cellule avec un lacet ou des cordes de fortune. La mort de Mohapi devint une énième cause célèbre lorsque Donald Woods, rédacteur du Daily Dispatch d'East London, décida d'enquêter sur lui. Woods était un enquêteur redoutable, ainsi qu'il le démontra lorsqu'il se pencha sur la vie et la mort de Steve Biko. Une autre personne qui joua un rôle crucial en me procurant les centaines de pages de documents dont j'avais besoin pour une saison blanche et sèche fut l'avocat Griffiths Mkengue de Durban. Quelques années plus tard, il fut assassiné par la SBI sous les yeux de sa famille. Je n'ai appris que très récemment, de sources on ne peut plus sûres, que l'homme qui avait photocopié les documents et me les avait fait passer était son clerc Bulelanin Kuka, qui en temps voulu devint procureur général. Il est aujourd'hui marié à la vice-présidente d'Afrique du Sud, Fumzile Mlambo. Compte, rien n'est inventé dans une saison blanche et sèche. Le roman devint le reposoir de ma vie, des vies de nombre de mes amis des années 1970 et des informations glanées au cours des principaux procès et enquêtes de la période. Ce ne fut pas une partie de plaisir, À cause notamment du caractère atroce du matériau brut à partir duquel je travaillais. Seule la rédaction d'un autre de mes livres, au-delà du silence, se révéla plus ardue. Mais c'était dû aussi à un événement qui eut lieu le 18 août 1977, très peu de temps après que j'eus commencé la rédaction du roman, et qui bouleversa tant le processus de création que je faillis abandonner. L'événement qui mena, quelques semaines plus tard, à la mort de Stephen Bantu Biko. La veille de son arrestation, dans le salon de thé de Rhodes, j'avais eu une longue conversation avec des amis de la section d'études politiques. Ils connaissaient bien Biko, et alors que c'était des réalistes endurcis, voire des cyniques, lorsqu'ils discutaient de l'impact de ce jeune homme charismatique sur la politique noire, notamment dans le Cap oriental, ils étaient dithyrambiques. Or voici qu'il avait été arrêté, à Grahamstown même, à quelques centaines de mètres de la maison dans laquelle je travaillais sur un roman traitant d'un personnage de fiction noir, arrêté, torturé et tué, non par des ombres grises et anonymes de la security police, mais par des gens que j'avais croisés. Les jours suivant l'arrestation de Biko furent chaotiques et les rumeurs allèrent bon train. Il fallut attendre le 13 septembre pour qu'une information sûre émerge de cette confusion. Steve Biko était mort. Les premières déclarations émanant du bureau du non-regretté ministre de la Justice, Jimmy Kruger, annoncèrent qu'il était décédé des suites d'une grève de la faim. Un intervenant au congrès du National Party, qui se tenait au même moment dans le Transvaal, un certain Christoffel Venter, se leva pour féliciter le ministre, qui, déclara-t-il au milieu des applaudissements, était un leader tellement démocratique qu'il allait jusqu'à accorder aux détenus le droit démocratique de choisir de mourir de faim. C'est à ce congrès que Kruger émit son commentaire notoire qui fit le tour du monde. « La mort de Biko me laisse froid ». Par la suite, il prétendit que l'expression afrikaans « dit laat my koot » n'avait pas ce sens-là, qu'elle signifiait en fait « je suis désolé, je reste neutre dans cette affaire ». Le mois suivant, aux assises annuelles de la Guilde des auteurs de langue afrikaans, je proposai une motion adoptée à l'unanimité qui confirma que tout bonnement « me laisse froid » signifie bien « me laisse froid ». La vérité filtra lentement. En novembre, lors de l'enquête sur la mort de Biko, fut présentée la version officielle des événements. Elle commença par un compte-rendu de l'importante lésion cérébrale subie par Biko avec abrasion de la partie gauche du front et de nombreuses autres blessures superficielles. Malgré le brillant et émouvant contre-examen de Sidney Kentridge et George Bizos, le magistrat déclara, au vu des seules preuves disponibles, la mort ne peut être attribuée à aucun acte volontaire ou omission pouvant suggérer que quiconque ait commis un crime punissable par la loi. N'empêche, l'affaire demeure un moment charnière de l'histoire contemporaine de l'Afrique du Sud. Quelles qu'aient été les déclarations officielles, c'était la première fois que les machinations de la Security Police étaient mises au jour de cette manière. Je n'en demeurais pas moins paralysé dans ma rédaction d'une saison blanche et sèche. Je trouvais obscène de m'y remettre. Comment pouvais-je me laisser aller à l'élaboration d'un roman, même s'il était fidèlement basé sur les faits, alors que tout près de moi, un homme avait été torturé et tué d'une manière atroce. Ce fut l'un des rares moments de mon existence où j'eus envie d'approuver Adorno. Après l'Holocauste, la littérature était impossible. Pendant de longs mois, je fus incapable d'écrire. J'étais tellement vide et dégoûté de tout que je ne pus même pas prendre part aux manifestations à la suite de la mort de Biko et à la décision du gouvernement d'interdire près de 20 organisations politiques, religieuses et culturelles, rendant ainsi presque impossible toute résistance à l'apartheid. Je n'émergeai lentement de cette paralysie que lorsque Nadine Gordimer me téléphona pour m'inviter à signer avec elle et Atoll Fugard une déclaration protestant contre la façon dont l'affaire avait été menée. Très lentement, je revins à la vie. Au cours de nombreuses discussions avec mes proches et, par-dessus tout, ma femme, Alta, j'en vins à penser qu'écrire, et de manière on ne peut plus pertinente, écrire une saison blanche et sèche, n'était pas obscène ou déplacée. mais une nécessité. Dans une large mesure, la presse, tous les médias publics étaient bâillonnés. Les manifestations étaient désormais illégales. La plupart des organisations qui avaient jusque-là orchestré la résistance à l'apartheid étaient réduites au silence. Mais dans ce silence oppressant, il restait une voix qu'on pouvait encore entendre, même si elle était diabolisée ou devenue suspecte pour un grand nombre, la voix de l'art. Dans mon cas, la voix romanesque. En 1984, aurait pu avoir lieu une redite de l'interdiction qui avait frappé au plus noir de la nuit, mais cette fois il n'y eut pas de problème. Hélas, il ne serait pas entièrement juste de considérer la fin de la censure comme une victoire totale de la littérature ou des arts en général. L'élément déterminant fut plutôt la situation générale en Afrique du Sud, notamment après la rébellion de Soweto en 1976 et le meurtre de Steve Biko un an plus tard, avec sa conséquence immédiate, l'interdiction de 19 organisations et la disparition de la liberté de la presse. Comme c'était prévisible, toutes les formes d'opposition furent réprimées, et la répression s'amplifia partout visiblement, notamment à travers les divers états d'urgence qui ponctuèrent les années 1980, jusqu'à ce que Peter Botha, même lui, ne puisse plus contenir les élans du pays et sombre dans l'apoplexie. Le gouvernement donna des signes croissants de panique dans ses tentatives effrénées pour renverser la situation. Les sanctions internationales commençaient à nuire au régime. Sur place fut créé l'United Democratic Movement, façade de l'ANC en exil. Autorisé par le gouvernement dans sa tentative pour endiguer les pressions accumulées dans le monde du travail, les syndicats organisèrent dans les usines une opposition frontale. Manifestations et différentes formes d'opposition prirent de l'ampleur dans les églises et à l'université. La Security Police manquait tout bonnement de bras pour affronter simultanément tous ces défis. Les excès et les mesures désespérées auxquelles elle fut acculée, y compris les tortures et les pires répressions que le pays ait connues, trahirent la faillite du système. Au milieu de cette effervescence, les arts perdirent leur statut de menace sérieuse, surtout pour un régime qui ne brillait pas par son goût de la lecture. Le bruit courait que Peter Botha ne lisait même pas les journaux. L'Afrique du Sud fut enfin prête à affronter les enjeux de la démocratie. Hélas, la démocratie est rarement établie une fois pour toutes, à moins que l'électorat ne reste constamment sur le qui-vive. Quel dommage qu'aujourd'hui, après tout juste 10 ans de cette expérience nouvelle, les vieux réflexes paraissent prêts de revenir, ravivés par ceux-là même qui, sous l'apartheid, souffraient le plus de l'absence de liberté de parole. Mais nous savons hélas qu'un enfant battu a de grandes chances de devenir un parent bourreau.
C'était « Mes bifurcations, mémoire d'André Brink ». Page choisie par Michel Pomarède, avec Jean Aucotrel et Anne Caillère. Prise de son et mixage, Jean-Louis Deloncle. Assistance technique et montage, Anil Bosselet. Assistante à la réalisation, Anne-Laure Chanel. Réalisation, François Christophe. Mes bifurcations a été traduit de l'anglais par Bernard Turle et est publié chez Actes Sud.